Vous écoutez, on lit pour vous.
Connaissez-vous La Faux Peau, un texte de Maude Goyer, paru le 27 août 2024 dans La Presse. Faux Peau, peur de l'opinion des autres. Depuis la nuit des temps, l'être humain se préoccupe de ce que son semblable pense de lui. L'acceptation sociale est centrale dans le comportement humain, rappelle Estelle Morin, professeur de management à HEC Montréal. On a besoin des autres, dit-elle. À sa naissance, le bébé cherche le regard de l'autre, c'est une question de survie. Et c'est comme ça que nous bâtissons nos interactions tout au long de notre vie. Alors que la solitude se répand partout dans le monde, incluant dans le monde du travail, selon un récent sondage Gallup, la crainte de l'opinion de l'autre peut devenir écrasante. Elle empêche de s'affirmer, de prendre la parole et de livrer le fond de sa pensée. Se taire, c'est ne pas prendre de risques et ne pas échouer. La plus grande crainte de l'humain, c'est le rejet, indique Madame Morin. Le sentiment d'appartenance est important. Il permet de s'accomplir, de s'épanouir, de préserver sa santé cognitive. C'est une condition au bien-être et à l'efficacité. Prise de risque. Or, il ne faut pas chercher à être parfait, croit la psychologue et conférencière Rose-Marie Charret. Il faut plutôt viser à être juste assez. Est-ce que, de façon générale, je me sens assez efficace au travail? Suis-je assez en accord avec les gens qui sont dans mon domaine et la culture de mon entreprise? Est-ce que je tolère la critique? Ce sont des questions qu'on peut se poser en se disant qu'on peut tenir compte de l'opinion des autres sans nécessairement obéir au dictat. Elle souligne à quel point les discussions, les échanges et les négociations sont riches au bureau. Se priver de ces possibilités, c'est freiner son développement professionnel. Par exemple, lors d'une réunion, donner son opinion, c'est bien sûr prendre un risque, explique-t-elle. Mais c'est aussi l'opportunité de participer et de faire changer l'opinion des autres. C'est ce qui donne du sens au travail. C'est ce qui motive. Bien passer le message. Pour Jacques Forêt, psychologue, CRHA et professeur d'organisation et ressources humaines à l'ESG UQAM, cultiver l'art de donner une bonne rétroaction permet de réduire la faux peau. Si on sait comment passer son message, l'interlocuteur ne sera pas brusqué ou éprouvé. Que ce soit le parent à son enfant, le coach à son athlète ou le gestionnaire à son employé, on peut passer un message difficile, dit-il. Il faut savoir comment donner un feedback orienté vers le changement. Il doit tout d'abord tenir compte des trois besoins psychologiques fondamentaux, l'autonomie, la compétence et la filiation. Descriptive et positive, la rétroaction doit être empathique, neutre et objective. Elle doit proposer des solutions, indiquer des objectifs clairs, significatifs et atteignables, et l'ensemble doit être fait avec tact. Le ton de la voix et le choix de mots doivent être respectueux, précise M. Forêt. Toutes ces caractéristiques vont camper la façon dont la rétroaction est reçue. Ce sera positif ou négatif, agréable ou désagréable, satisfaisant ou frustrant. Conscience de soi. Se débarrasser de la peur du jugement des autres passe par une meilleure connaissance de soi, avance Estelle Morin. C'est un problème quand ça paralyse. Il faut se demander « J'ai peur de quoi ?» Une hypothèse, c'est qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Et dans ce cas, je pense qu'il faut être la première personne à afficher un regard bienveillant envers soi-même et envers les autres. Ça part de soi, il faut être convaincu de sa propre valeur. Plus facile à dire qu'à faire. Est-ce le travail d'une vie? Estelle Morin parle d'avoir une juste vision de soi, avec ses forces et ses faiblesses, pour arriver à avoir une bonne conscience de soi. Elle conseille de stimuler son introspection en tenant un journal, par exemple. Au sujet des événements qui nous préoccupent au travail, on note comment on s'est senti, ce qu'on a pensé, ce qu'on a fait et quelles valeurs on voulait exprimer. Femme et promotion. Il est aussi utile de développer sa tolérance à l'échec. La psychologue Rose-Marie Charret avoue avoir vu, tout au long de sa carrière, trop de femmes qui n'osaient pas demander, solliciter, lever la main. Les femmes se sentent mal à l'aise de demander des promotions, glisse-t-elle. Et elles ne les ont pas. Combien j'ai vu de parcours interrompus, malgré le potentiel et les ambitions. Je crois que les femmes auraient tout à gagner à augmenter leur capacité à se faire dire non. C'était « Connaissez-vous la faux peau ?» un texte de Maude Goyer, paru le 27 août 2024 dans la presse.
Réparer des chaises et des enfants. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 30 août 2024 dans la presse. Les jeunes caquistes réclament le retour du civisme et de la discipline dans les écoles du Québec. Il est temps, disent-ils, de sonner la fin de la récréation pour les élèves violents et intimidateurs. Que ceux qui s'opposent à cette proposition veuillent bien lever la main. Personne? Parfait, je continue. Ceux qui enfreignent les règles, perturbent la classe ou intimident leurs camarades doivent être recadrés, soutiennent les jeunes caquistes. Encore une fois, difficile de s'ériger contre un tel énoncé. Personne n'est contre la vertu, ni contre le retour du civisme en classe. Reste qu'on se demande un peu, recadrer les élèves violents et intimidateurs, ça se fait pas déjà à l'école? À cette question, il faudrait pouvoir répondre par l'affirmative en toutes circonstances. Si la réponse est non, ou plus ou moins, ou ça dépend des cas, le système scolaire québécois a un sérieux problème. Et le gouvernement doit tout faire pour y remédier. Les jeunes caquistes proposent d'imposer des travaux communautaires aux élèves qui endommageraient le matériel scolaire, afin de leur faire comprendre les conséquences de leurs gestes. Si tu lances une chaise et que tu la brises, tu vas la réparer, a illustré à Radio-Canada Aurélie Dieppe, présidente de la commission de la relève de la CAQ, reprenant à son compte le fameux « tu casses, tu répares », prononcé en janvier 2024 par le premier ministre français démissionnaire Gabriel Attal. En théorie, l'idée ne semble pas mauvaise du tout. Encore faut-il avoir les moyens de la mettre en pratique. Il ne suffira pas de dire à l'élève de se débrouiller avec un pot de colle et des morceaux de chaise. Il faudra un local, un créneau horaire, un professionnel pour superviser l'élève et pour comprendre ce qui l'a fait exploser au point de lancer la chaise au bout de ses bras. Les plus belles propositions du monde ne valent pas le papier sur lequel elles ont été écrites si on n'a pas les outils pour les mettre en œuvre. Or, de quoi parle-t-on depuis des semaines? De pénurie de personnel scolaire. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation, il manque toujours 1175 techniciennes ou techniciens en éducation spécialisée, TES, dans les écoles du Québec. Si les TES ne se bousculent pas au portillon, c'est que, la plupart du temps, elles se voient offrir des contrats à temps partiel. Elles s'épuisent dans des emplois instables où elles doivent éteindre des feux et où elles manquent de temps pour bien faire leur boulot. Alors, découragées, elles désertent le réseau public. Et sans TES, il n'y a personne pour aider l'élève à réparer sa chaise, encore moins à se réparer lui-même. Le milieu scolaire québécois ne s'est pas réveillé hier matin en se disant qu'enfin, les jeunes caquistes avaient trouvé la solution à son problème. La réalité, c'est qu'il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. N'empêche, les propositions des jeunes caquistes ont le mérite de soulever le débat. En mai 2024, leur suggestion d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans a poussé le gouvernement à mettre sur pied une commission spéciale chargée de se pencher sur la question. Cette fois, les jeunes caquistes proposent le retour de l'uniforme au secondaire et du vouvoiement obligatoire des enseignants dès la cinquième année du primaire. Ça se discute. Plus nouvelle et probablement plus controversée est cette idée de punir les parents pour les fautes de leurs enfants. Les parents demeurent responsables des actions de leurs enfants, et c'est pour cette raison que nous suggérons que les parents d'élèves coupables de violence et d'intimidation soient tenus de les accompagner à une formation obligatoire pour changer leur comportement et réparer leurs actions, a écrit Aurélie Dieppe dans une lettre ouverte diffusée jeudi 29 août 2024. Pour les parents de bonne volonté, cette proposition sera sans doute perçue comme inutilement culpabilisante. Après tout, eux aussi font leur gros possible. Eux aussi souffrent de la pénurie de professionnels à l'école comme au privé, où les listes d'attente sont désespérément longues. Mais il y a aussi des parents de moins bonne volonté, disons. Des parents qui ne posent pas de limites, achètent la paix et abandonnent la discipline à la tablette. Il y a des parents convaincus que leur enfant est la huitième merveille du monde, du genre à engueuler un arbitre à l'aréna ou à sommer une enseignante de justifier la mauvaise note infligée à leur petit trésor. Ces parents-là couvent et couvrent leur progéniture, lui trouvant toujours des excuses. Une formation obligatoire à l'école leur serait bénéfique, à supposer qu'ils soient disposés à la recevoir. C'est drôle. J'ai comme un doute. Certains parents rois vont tellement loin que des écoles n'osent plus sanctionner leurs enfants pour éviter de pénibles contestations, voire des poursuites judiciaires. Les jeunes caquistes ont parfaitement raison de vouloir mettre un terme à ce cirque. Ils proposent de donner plus de pouvoir aux enseignants afin de leur permettre de sanctionner leurs élèves. Il me semble pourtant que les profs n'ont pas besoin de pouvoirs supplémentaires. Ils n'ont pas besoin d'une politique ou d'une loi pour restaurer la paix dans leur classe. Ils ont plutôt besoin du soutien indéfectible de leur hiérarchie, à l'école et au centre de service scolaire. Ils ont aussi besoin de ressources pour aider les enfants qui cassent des chaises. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe au gouvernement caquiste, justement. C'était « Réparer des chaises et des enfants », un texte d'Isabelle Haché, paru le 30 août 2024 dans la presse.
Homosexualité au cinéma, évolution et révolution en France de 1896 à nos jours. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 août 2024 dans le magazine Fugue. Quelques films ont déjà abordé la petite histoire de la représentation LGBTQ au cinéma, mais ces derniers se limitent généralement aux productions de langue anglaise, plus particulièrement états-uniennes. C'est donc dire l'intérêt de ce documentaire de 2023 qui porte son regard sur le cinéma français. Réalisé par Sonia Medina et coécrit avec le journaliste Alain Rioux, grand spécialiste du cinéma, Homosexualité au cinéma, les chemins de la victoire, se penche sur la manière dont le cinéma représente les personnages et les thèmes LGBTQ. Après un détour obligé à travers quelques films muets pionniers, en provenance d'Allemagne et des États-Unis, le regard se porte ensuite, presque exclusivement, sur la production française. animé par la journaliste Anne Delabre, le documentaire tourne tout d'abord les projecteurs vers les premiers archétypes qui ont peuplé le septième art, à savoir le féminé, le sissi et la garçonne. Bien qu'il s'agisse de stéréotypes, la représentation n'est alors pas méprisante ou vilainisée. Et si ces personnages font sourciller les organes de censure, il leur est toutefois difficile de s'opposer au succès populaire qu'ils rencontrent. Même si le code Hays de censure, introduit en 1934, ne s'applique en théorie qu'aux États-Unis, il traduit cependant un état d'esprit moralisateur qui s'imposera jusqu'en Europe. Les cinéastes devront alors faire preuve d'ingéniosité pour truffer leurs films d'éléments codés qui permettent d'échapper à la censure tout en étant parfaitement compréhensibles pour un public averti. Dans « Hôtel du Nord », 1938, Marcel Carné met ainsi en scène un personnage secondaire maniéré et l'inclut en arrière-fond d'un plan-séquence qui ne peut être coupé alors qu'il s'attable avec un soldat. Il peut également s'agir d'une ligne de dialogue qui n'est comprise que des initiés. Par exemple, dans « Bringing Up Baby », l'impossible « Monsieur Bébé », 1938, Cary Grant s'exclame, lorsqu'on lui demande pourquoi il porte un vêtement à frou-frou, « Parce que je suis soudainement devenu gay. » Et « Je suis assis au milieu de la 42e rue et j'attends un bus. » À l'époque, l'association du terme « gay » avec l'homosexualité est peu connue du grand public. De même que la 42e rue, à New York, soit un lieu de drague masculine. Bien que la présence LGBTQ soit alors avant tout codée et l'apanage de personnages secondaires, on retrouve également quelques représentations très claires, comme dans le film « Olivia » 1951 de Jacqueline Audry, qui présente l'une des premières relations lesbiennes à l'écran sans qu'aucun jugement moralisateur y soit attaché. Les années 70 amènent une nouvelle vague de réalisateurs qui abordent le sujet sans détour, comme c'est, par exemple, le cas de Claude Miller avec « La meilleure façon de marcher » 1976. Il est évidemment impossible de ne pas mentionner « La cage aux folles » 1978, qui fut un grand succès populaire et où on retrouve une grande tendresse entre les deux protagonistes, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Finalement, la petite histoire se conclut en abordant les films associés au sida, comme « Les nuits fauves » 1992 de Cyril Collard, ou encore ceux qui traitent de la sortie du placard avec « Les roseaux sauvages » 1994 d'André Téchiné, puis en évoquant de nouvelles productions qui se penchent dorénavant sur les questions de genre. Cet excellent documentaire est d'une durée de 51 minutes et se révèle extrêmement riche en extraits de films. Info : le documentaire « Homosexualité au cinéma, les chemins de la victoire » est disponible en français sur la plateforme gratuite de TV5 Uni à l'adresse tv5unis.ca. C'était « Homosexualité au cinéma, évolution et révolution en France de 1896 à nos jours », un texte de Benoît Mignot paru le 29 août 2024 dans le magazine Fugue.
L'île Sainte-Hélène, le terrain de jeu du Faubourg Amelas. Un texte de Magdalene Boutros, paru le 19 août 2024 dans Le Devoir. Elle l'appelle tout simplement l'île. Comme à l'époque où sa mère, éreintée par la gestion d'une maisonnée de 7 personnes entassées dans un 5,5, lançait On s'en va sur l'île. Ou quand ses cousins, en passant en voiture sur le pont situé tout juste à côté de leur appartement, leur criaient par la fenêtre « Venez nous rejoindre sur l'île !» La famille partait alors à pied sur le pont Jacques-Cartier pour traverser le fleuve Saint-Laurent et passer la journée sur l'île Sainte-Hélène, leur île. Il n'y a pas un coin de l'île que je ne connaissais pas dans ma jeunesse, relate Monique Langlois, 81 ans, en marchant canne à la main sur les sentiers de son enfance. Je pense que je connaissais chaque arbre. Oh mon Dieu, que c'était beau! La famille de trois enfants habitait dans le faubourg Amelas, un quartier populaire montréalais situé au pied du pont Jacques-Cartier. On était dans un troisième étage. Ma mère s'occupait aussi de sa sœur, qui avait fait une dépression, et de son père, qui était veuf. Avec ses sept occupants, le petit logement, si sur une rue sans arbre, laissait peu de place à l'intimité. On était souvent dehors. Sans voiture, la famille partait le plus souvent sur l'île à pied, entraînant parfois derrière elle une petite charrette remplie de victuailles. L'île, c'était comme chez nous, dit-elle. C'était comme notre cour. Une fois sur place, sa mère étendait une nappe sur une table à pique-nique pour le repas à venir, puis plaçait une couverture au sol pour le repos et s'installait enfin sur un banc pour y lire ses romans photos. C'était un besoin pour elle de sortir de la maison. L'île, elle y tenait. Enfants en liberté. Les enfants étaient alors laissés à eux-mêmes. On se promenait, on courait dans l'île, on n'avait rien pour jouer, mais on jouait, raconte Monique. Les boisés devenaient des cachettes sans fin, les sentiers des voies rapides vers leur imaginaire. Les enfants ramassaient parfois, comme trésor, des bouteilles vides pour aller les revendre. On connaissait tous les raccoins et les chemins de l'île. Ma mère n'a jamais été inquiète. Les fins de semaine, son père, tout comme ses cousins et cousines, se joignait souvent à eux. Pourtant, personne dans la famille n'avait de téléphone. D'après moi, il y en a un qui partait en tramway pour dire « Il y a un pique-nique dimanche ». On n'avait pas de téléphone, pas d'auto, et regardez combien on se ramassait, lance Monique en montrant des photos d'époque où une vingtaine de têtes sont rassemblées devant l'objectif, tout sourire. Et la nourriture qu'il y avait là, se remémore-t-elle. Les tables étaient remplies de sandwichs, de salades, de tartes et de boissons. C'était tout fait maison. C'était sain. Je pense qu'on était écologique sans le savoir. Celle qui a fait profession dans les bibliothèques scolaires garde encore comme relique de cette époque la boîte métallique que sa grand-mère paternelle apportait à l'île. Elle arrivait avec un beau sac de cuirette. Dedans, il y avait son thermos de thé et sa boîte métallique dans laquelle elle mettait ses sandwichs. C'était cérémonial. Vue sur le centre-ville. À l'époque, de la table à pique-nique où la famille de Monique se retrouvait, la vue sur le fleuve et sur la ville était dégagée. On voyait quasiment notre maison dans le faubourg de l'autre bord. Aujourd'hui, il faut monter sur une butte pour que le regard surplombe les arbres et arbustes et atteigne le centre-ville de Montréal et derrière le Mont-Royal. C'est incroyable. Comme on peut être dans la nature si proche de la ville. C'est un site magnifique. Le soir venu, un policier faisait le tour de l'île avec une sirène sur son bicycle pour avertir ceux qui traînaient encore que le dernier autobus allait bientôt partir. Là, on paquetait nos affaires et on s'en allait. L'esprit aéré, la famille retournait dans son petit logement. Il n'était pas facile de vivre à sept dans un 5,5 sans eau chaude ni frigo, se rappelle Monique. Mais on a été heureux malgré tout. Expo 67. Lorsque l'exposition universelle a établi ses quartiers sur les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame en 1967, Monique l'a bien sûr exploré avec assiduité. Jeune travailleuse, elle partait du bureau en fin de journée pour aller découvrir ce monde qui s'ouvrait à elle. J'ai fait tous les pavillons. Chaque fois qu'elle allait à l'Expo 67, Monique consignait dans un journal ses découvertes. À la fin, j'ai compté le nombre de dates où j'y suis allé. 67 fois. Bingo! Un hasard qui l'a fait s'esclaffer encore aujourd'hui. Désormais, la tradition, vieille de 3 générations, de se rendre sur l'île pour y faire des pique-niques, s'est estompée dans la famille de Monique. Avant même la construction du pont Jacques-Cartier, mes grands-parents s'y rendaient en bateau, relate-t-elle. Il y a 10 années, les plus jeunes générations ont été conviées sur l'île. C'était un beau pique-nique. On voulait leur montrer ce qu'on avait vécu, mais on ne l'a plus jamais refait depuis. L'île continue néanmoins d'occuper une place bien particulière dans le cœur de Monique. De la même manière que la chanteuse française Joséphine Baker chantait « J'ai 2 amours, mon pays et Paris », Monique fredonne « J'ai 2 amours, mon faubourg et mon île » sur le même air connu en regardant l'étendue de verdure autour d'elle. Parions qu'avec cette ferveur, elle convaincra bientôt son frère et sa sœur de retourner pique-niquer sur l'île et apportera peut-être même la boîte métallique de leur grand-mère. L'histoire de l'île Sainte-Hélène. Parcelle de terre visitée depuis des siècles par les Autochtones, l'île Sainte-Hélène a été nommée ainsi par Samuel de Champlain en l'honneur de sa femme, Hélène. Faisant partie de la seigneurie de Longueuil, qui est concédée à Charles le Moine à partir de 1657, l'île a été achetée en 1818 par le gouvernement britannique qui y a construit un fort et une poudrière, entre autres, pour renforcer la défense du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. En 1874, la cité de Montréal obtient du gouvernement canadien l'autorisation d'utiliser l'île comme parc municipal. En 1908, elle se porte acquéreuse du site dont l'aménagement sera confié à l'architecte paysagiste Frédéric Gage Todd. Jusqu'à la construction du pont Jacques-Cartier, en 1930, l'île n'était accessible qu'en bateau. En prévision d'Expo 67, l'île sera agrandie et, à la même période, le parc d'attractions La Ronde y prendra ses quartiers. C'était « L'île Sainte-Hélène, le terrain de jeu du Faubourg Amelas », un texte de Magdalene Boutros, paru le 19 août 2024 dans Le Devoir.